Bonjour à tous.
Bienvenue sur Tempo Goulette, la web radio du collège Marcel Goulette. Aujourd'hui, une émission spéciale sur le thème de l'eau.
C'est parti. On commence par un sujet sur les tortues marines avec l'interview de Colo, soigneur à Kélonia, par Valentine.
En quoi consiste ton métier ?
En fait, à Kélonia, je suis technicien soigneur. Ça sous-entend, je dois encadrer les 4 ou 5 soignants qui travaillent chez nous. Je dois manager l'équipe. Et je dois aussi opérer au suivi des pathologies des animaux.
Ok. Quelle étude faut-il faire pour faire ton métier ?
Mon métier, je l'ai commencé il y a 30 ans. 30 ans, j'avais un BTS agricole. Et à l'époque, il n'y avait pas d'école pour le métier de soigneur. Et aujourd'hui, tu as 4 ou 5 écoles en métropole qui proposent de la place de CAP jusqu'au BTS probablement.
Quelle est ta plus grande intervention ?
C'est la prise en charge des animaux, sachant qu'moi, je suis d'astreinte une semaine sur deux et que je dois être présent quasiment toute l'année, 7 jours sur 7. Moi, j'arrive le matin à 6 heures, je finis en moyenne à 14 heures. Et en ce qui concerne mes astreintes, il n'y a pas d'heure pour pouvoir intervenir. Je peux intervenir aussi bien le matin à 4 heures, comme on peut m'appeler vers 18-19 heures, des fois jusqu'à 21 heures pour aller récupérer les tortues qui sont capturées accidentellement par les bateaux, par l'engrier notamment. Et après, il y a aussi l'assistance opératoire, parce que ça fait 30 ans que je participe aussi à quasiment à chaque opération, notamment à gérer tout ce qui est produits anesthésiants, etc. Et je veille aussi au bon rétablissement des animaux, parce qu'une fois opérés, il faut pouvoir les suivre jusqu'à guérison. Voilà.
Quelle est la plus grande cause de mort sur les tortues ?
Et là, depuis 3 ans, 4 ans, il y a un phénomène nouveau, c'est les collisions avec les bateaux. Il y a de plus en plus de bateaux sur l'eau, des gens qui pratiquent des activités nautiques. Et on a constaté, on recueille pas mal de tortues avec la carapace amochée.
Quelles sont les tortues qui viennent pondre à Kélonia ?
Pas à Kélonia, mais sur les plages de La Réunion, il y en a deux, principalement. On a Emma et Gabi. Gabi qui pond depuis 20 ans et Emma une quinzaine d'années. Et là, depuis deux ans déjà, on observe la ponte du petit Gabi qui s'appelle Minus, une tortue qu'on a récupérée au fond du nid, qui était destinée à mourir. On l'a sauvée et maintenant c'est elle qui pond des œufs.
Ok. Quelle émotion ressens-tu après avoir sauvé une tortue ?
Mais c'est un sentiment de soulagement, parce c'est pas gagné d'avance lorsque les tortues nous sont confiées malades. Et un sentiment de mission accomplie une fois qu'on observe que la tortue recommence à manger.
Quel est le plus dur dans ce métier ?
Le plus dur dans notre métier, c'est l'endurance, parce qu'il faut être présent quasiment toute l'année, en dehors de nos 5 semaines de congé. Et il faut travailler sans relâche, parce qu'il faut entretenir leur milieu de vie à Kélonia. Aussi bien nettoyage des bassins, toilettage des tortues, nettoyage de leur milieu de vie, siphonnage des bassins, etc., etc. Ça nous demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et aussi, la chaleur. La chaleur, en période d'été, c'est compliqué.
Combien de tortues sont accueillies chaque année ?
Chaque année, on a 60 de tortues pêchées accidentellement, qui nous sont confiées par les pêcheurs par l'engrier. Et les pêcheurs qui adhèrent à l'idée de sauvegarder les animaux. On peut avoir quasiment tous les ans, voire un an sur deux, des bébés qu'on doit prendre en charge, des bébés qui sont coincés au fond du nid, qu'on doit les sauver à tout prix.
Ok.
Inès et Lia nous présentent la vie des tortues marines et tout particulièrement celle de la tortue verte.
La tortue verte pèse 175 kg. Elle mesure 1 mètre. Elle peut vivre jusqu'à 70 ans. Cette tortue marine peut parcourir jusqu'à 2000 km vers son site de ponte. C'est aussi la plus rapide des tortues marines. Elle peut atteindre une vitesse de 35 km à l'heure. La tortue verte est la, est la seule tortue marine à sortir de l'eau pour prendre un bain de soleil. Pour s'orienter durant ses grands voyages, elle utilise les champs magnétiques de la Terre, mais aussi les courants marins. On la trouve à La Réunion, dans les eaux tropicales et tempérées. Elle se nourrit de petits invertébrés et d'œufs de poissons. Elle broute des herbiers marins et elles peuvent aussi manger quelques mollusques.
L'homme, principal prédateur des tortues marines, il ne se fait aucun doute que le plus grand ennemi des tortues marines, toutes espèces confondues, est l'homme. Contrairement aux prédateurs naturels qui ne ciblent qu'un faible nombre d'individus, les activités humaines ont un impact massif et permanent sur le cycle de vie complet des tortues par différents biais. La pêche accidentelle. Chaque année, des milliers de tortues marines se retrouvent piégées dans des filets de pêche, des filets à d'autres espèces. Incapables de remonter à la surface pour respirer, elles se noient en quelques minutes. Ce phénomène de capture accessoire est particulièrement fréquent dans les zones de pêche. Même lorsque survivent, les tortues peuvent subir des graves blessures comme l'amputation d'une nageoire ou des fractures de la carapace. La chasse illégale. La viande de tortue est consommée pour des raisons culturelles ou alimentaires, tandis que leurs œufs sont ramassés pour être vendus sur les marchés, parfois à prix d'or. Sous prétexte de vertus aphrodisiaques ou médicinales, les tortues imbriquées sont particulièrement visées pour leur carapace, dont les écailles servent à fabriquer des bijoux, des lunettes ou des objets décoratifs. La pollution marine. Les tortues marines, en particulier les tortues vertes, confondent souvent les sacs plastiques avec des méduses, leur aliment préféré. Une fois ingérés, ces objets obstruent leur système digestif, provoquant des infections, des perforations ou la faim. Des tortues ont également été retrouvées piégées dans des filets dérivants ou des anneaux de plastique rigide, ce qui peut entraîner des malformations ou la mort lente de l'animal.
La température du sable influence le sexe des embryons. Au-delà de 29 degrés Celsius, les œufs donnent majoritairement naissance à des femelles. Avec la hausse des températures, certaines plages ne produisent presque plus de mâles, menaçant à long terme la reproduction de l'espèce. Le réchauffement des océans affecte aussi la répartition des méduses, des herbiers et d'autres sources alimentaires, obligeant les tortues à modifier leur itinéraire migratoire et à affronter des nouvelles zones de danger. Mais heureusement, des associations comme la CEDTM luttent pour la protection des tortues marines. Nous passons maintenant à l'imaginaire
inimaginable.
Découvrez la fiction narrative écrite par Camille et Anaïs.
Belle mais cruelle. Sur une plage de Maurice, une maison secondaire appelée campement a été louée par un père et son fils. Arrivant de nuit, la propriétaire leur indiqua qu'il ne fallait pas se baigner la nuit et surtout ne pas dépasser le banc de sable. Le lendemain, Alex et son fils Jules oublièrent les avertissements et partirent se baigner. Jules dépassa le banc de sable et n'ayant plus pied, alerta son père. Alex se moqua de son fils qui se débattait comme un petit chien dans l'eau, pensant qu'il s'amusait. Mais à un moment, il préféra tout de même plonger pour voir si tout allait bien pour son fils. Malgré sa force, il se fit emporter par le courant de la passe. De retour sur la plage, Jules chercha son père mais ne le trouva nulle part.
Il rentra rapidement au campement et appela la propriétaire en lui expliquant la situation si terrible. Les pompiers et la police marine arrivèrent vite, mais ils ne trouvèrent pas Alex. Alex est donc étonnamment présumé mort, noyé, et Jules retourna vivre avec sa mère. Notre histoire est tirée de faits réels et comme le dit notre titre, La mer est belle, mais cruelle. La mer fait partie des forces de la nature les plus puissantes. Alors faites attention et ne dépassez pas le banc de sable.
Maintenant, faisons un plongeon dans le thème de la natation. La natation est un sport qui demande beaucoup de mental. Il demande beaucoup de temps et d'implication. C'est-à-dire que les gens qui veulent continuer la natation en compétition, il faut en faire souvent. Par exemple, moi je fais de la natation 2h15 tous les soirs. C'est long, même très long. C'est un sport qui demande beaucoup de temps et d'attention. Des fois, c'est très dur, j'ai envie d'arrêter, mais je suis tellement contente et fière de moi après ce long entraînement. Il y a 4 nages en tout, le papillon, le dos, le crawl et la brasse. La longueur d'une piscine municipale, c'est 25 mètres. D'autres font 50 mètres, mais c'est moins courant. On peut aussi associer le papillon et le dos, par exemple, et faire un 25 mètres d'eau à la première longueur, et à la deuxième, faire du papillon.
Maintenant, place au portrait de Léon Marchand, présenté par Manon.
Léon Marchand, né le 17 mai 2002 à Toulouse, en Haute-Garonne, est un nageur français spécialiste des épreuves 4 nages, brasse et papillon. Il a 23 ans. Depuis 2022, il détient les records de France du 200 mètres 4 nages, du 200 mètres papillon et du 200 mètres brasse. Il est champion du monde du 200 mètres 4 nages et vice-champion du monde du 200 mètres papillon. Il est le premier nageur français à s'adjuger 3 titres individuels dans les mêmes mondiaux et a gagné 6 médailles d'or en tout. Au cours des Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris, il remporte la médaille d'or sur le 400 mètres 4 nages et établit un nouveau record olympique en 4 minutes 2 secondes et 95 centièmes, en éclipsant le record olympique précédemment détenu par Michael Phelps. Il confirme avec 2 autres titres olympiques sur 200 mètres papillon et 200 mètres brasse, remporté le même jour à moins de 2 heures d'écart, un exploit inédit aux Jeux Olympiques. Il remporte un 4e titre individuel en 200 mètres 4 nages. Il obtient également une médaille de bronze avec l'équipe de France lors du relais 4x100 mètres 4 nages masculin. Léo Marchand, avec ses 4 médailles d'or, est l'athlète le plus titré de cette édition olympique. Lors de la cérémonie de clôture de ces Jeux, il est désigné pour récupérer la flamme olympique et éteindre la vasque. Il a été connu par la plupart des personnes en 2024 pendant les JO. Merci d'avoir écouté. Au vu du succès de Léon Marchand, la natation attire beaucoup de monde.
Dans la rubrique « Un jour un métier », l'interview de Benoît Debast, coach de natation, réalisée par Manon et Inès. Écoutons-la.
Bonjour Benoît Debast. Aujourd'hui, on va parler du club des nageurs de Saint-Denis. Quand as-tu commencé la natation ?
Bonjour Inès, merci à toi de prendre ce petit temps d'échange pour te présenter un petit peu le club. Alors pour ma part, j'ai commencé la natation depuis tout petit. Du coup, mon père était aussi éducateur et entraîneur. Il a aussi créé des clubs sur la ville de La Possession il y a 40 ans de ça. Et du coup, moi j'ai suivi le cours et moi aussi j'ai créé le club des nageurs de Saint-Leu depuis 4 ans.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la natation ?
Comme je disais juste en amont, j'ai toujours été dedans, depuis mon plus jeune âge, avec mon père éducateur, donc il m'a transmis cette passion. Du coup, voilà, ça a continué.
Quel titre as-tu remporté ?
Alors, quel titre j'ai remporté ? J'étais champion de France au 400 nages libre en 2013. J'ai eu d'autres titres de champion de France et de vice-champion de France aussi, et j'ai fait 2 participations au championnat d'Europe, petit bassin.
Est-ce que tu aimerais changer quelque chose dans ta carrière ?
Non, j'aimerais rien changer. J'ai toujours donné les moyens d'atteindre ce que je voulais. Je suis arrivé au niveau de performance que j'ai pu atteindre. Les résultats que j'ai donnés juste en amont. Et maintenant, je suis entraîneur et je suis très content d'être à ma place où je suis.
Quel souvenir as-tu de ta première compétition ?
Première compétition ? Bon, là, faut remonter alors. Je n'ai pas un souvenir précis, on va dire. J'ai surtout des souvenirs où je prenais du plaisir, j'étais content de voir des amis et je m'éclatais et voilà. Donc on se voyait tous les jours à l'entraînement, on se voyait le week-end, donc c'était que du plaisir.
Quels sont les groupes dans ce club ?
Alors il y a 7 grandes sections au club, donc que ce soit l'apprentissage pour les petits, pour les adultes, de l'aquaforme, de l'andinage aussi, donc le sport adapté. Après sur chaque catégorie, il y a des sous-groupes. Comme vous disiez, de l'apprentissage au perfectionnement, au groupe confirmé et compétition, bien sûr.
As-tu une méthode pour pouvoir déstresser pendant les compétitions que tu conseilles aux élèves ?
Alors, une méthode qui marche pas trop mal, c'est la gestion du stress sur le travail de respiration. Après, là, c'est un sujet à part entière. Et c'est, voilà, c'est savoir maîtriser sa respiration, de grandes inspirations, amples et souples, on va dire. Après, derrière, voilà, bon. Compétition, voilà, faut avant tout prendre plaisir et le voir plutôt comme un jeu que comme quelque chose de trop important, on va dire.
Veux-tu continuer ta carrière de coach pendant encore longtemps ?
J'espère bien.
Quel diplôme faut-il avoir pour être coach ?
Alors, pour être coach, il y a un premier diplôme à passer, c'est le PS1, c'est le premier secours en équipe. Ça peut se passer sur une période de 3 mois. Après, on a associé à ça, on peut passer aussi en même temps le BNSSA. Donc c'est le premier niveau pour être maître nageur, on va dire. Donc pour être surveillant de baignade surtout. Et après, à la suite de ça, on peut passer le brevet professionnel pour être maître nageur et éducateur.
Ok. Merci beaucoup pour cet échange.
Merci à toi, Inès.
Nous sommes à La Réunion. Comment ne pas parler des baleines? À toi, Charlie, on t'écoute.
Les baleines ne sont pas des poissons. Malgré leur ressemblance avec les poissons, les baleines sont bien des mammifères. Elles appartiennent à l'ordre des cétacés dont l'ancêtre était un animal terrestre. Leurs plus proches parents actuels sont les hippopotames, krill, copépodes, anchois, harengs, sardines, maquereaux, calamars, sèches. Le menu des baleines n'est composé que de toutes petites proies. Les techniques pour se nourrir varient selon les espèces. Les écrémeuses, comme les baleines franches, filtrent l'eau des petits animaux marins grâce à leurs fanons. Leurs ancêtres communs, qui auraient vécu il y a environ 34 millions d'années, ne possédaient probablement pas de fanons et ne pouvaient pas faire des colocalisations. En seulement 5 millions d'années, les espèces de baleines se sont diversifiées, probablement à cause des changements écologiques rapides des océans. Où vivent les baleines? Les baleines sont présentes dans tous les océans du monde. Des océans tempérés en passant par les eaux tropicales autour de l'équateur jusqu'au polaire des océans Arctique et Antarctique. On trouve également des baleines dans de nombreuses mers, comme la mer du Nord et la Méditerranée. Merci à tous pour votre écoute.
Les baleines, comme les autres animaux marins, ont besoin d'un océan propre. Préservons leur habitat naturel, c'est important.
Et découvrons ainsi l'impact des déchets sur l'océan par Mia, Camille et Anaïs.
La pollution marine. C'est quoi la pollution marine, Mia ?
La pollution marine est un défaut créé par l'homme qui consiste en la présence de déchets dans les océans, impactant la faune et la flore marine. Certaines personnes laissent leurs déchets au bord de mer qui finissent par s'éloigner dans les océans. À cause de ça, chaque minute, 15 tonnes de plastique terminent leur vie dans les océans, soit l'équivalent d'un camion de poubelle. Les gros déchets peuvent consister des pièges mortels pour les oiseaux ou les animaux aquatiques s'ils s'en mêlent les pattes, le bec ou le nageoire. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons.
L'impact sur la faune. Les déchets plastiques causent la mort de plus d'un million d'oiseaux marins. Chaque année, 100 000 mammifères marins meurent à cause de la pollution.
L'impact sur la flore. La variété des espèces végétales et animales est directement impactée, menaçant l'équilibre fragile de nos écosystèmes. Destruction d'habitats naturels. Les déchets peuvent obstruer les habitats naturels des espèces, les privant de nourriture et d'espace vital.
Que faire pour agir ? Réaliser une épuration des eaux avant leur rejet direct. Réduire les risques de pollution accidentelle. Réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Réglementer la fertilisation des sols. Éviter les transferts aux milieux aquatiques et encadrer ou interdire l'usage de substances dangereuses.
De plus, quelques associations luttent contre ça, comme Wings of the Ocean.
Merci de votre écoute.
Et maintenant, place à notre rubrique « L'histoire à la loupe » par Victor qui nous raconte le débarquement en Provence.
Je suis le débarquement de Provence. Vous ne me connaissez pas, masqué par le grand débarquement de Normandie. J'ai chargé Victor de vous raconter mon histoire.
À 8h, la 36e division d'infanterie américaine prend d'assaut la plage du Dramont et 17 autres plages. La plage qui nous intéresse est celle du Dame et du Dramont. Le succès du débarquement de Normandie, le 6 juin, a permis d'établir une tête de pont solide à l'ouest, mais l'avancée des troupes alliées est freinée par des difficultés logistiques considérables. Les ports en eau profonde, comme Cherbourg, sont lourdement endommagés. Il devient impératif d'ouvrir un second front dans le sud de la France pour prendre les forces allemandes en tenaille, libérer les grands ports de Toulon, Marseille, et ainsi créer un nouvel axe de ravitaillement vital pour la progression vers l'Allemagne. La plage du Dramont est une plage de galets peu défendue car elle est peu propice à un débarquement. Les bateaux peuvent s'en approcher. Il y a eu peu de mines au large de cette plage et elle est proche de l'autoroute qui monte vers le nord. La 36e division d'infanterie font partie de ceux qui ont combattu et se sont endurcis en Italie. Il suffit de bombarder et pilonner les seuls points de résistance pour que la plage se retrouve quasiment sans défense. Les soldats débarqués contrôlent, occupent et sécurisent la plage en une demi-journée. En deux semaines, la Provence aura été libérée. Grenoble est prise le 22 août 1944, soit 83 jours avant soit 83 jours avant la date prévue. Toulon le 23 août 1944. Marseille le 29 août 1944 et Lyon le 3 septembre 1944. Au bout d'un mois, la liaison avec les troupes débarquées en Normandie est faite. Antoine de Saint-Exupéry est mort lors des repérages pour ce débarquement. Je souhaite pour sa mémoire que vous ayez une pensée pour lui.
Terminons notre podcast avec une petite série de blagues. Êtes-vous prêts ?
Qu'est-ce qu'un sous-marin pour une baleine, un énorme suppositoire ?
Quelle est la différence entre une baleine et un prof sympa ? Aucune, les deux sont en voie d'extinction. Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille ? Elle dit « C'en est assez, j'ai le dauphin » et elle se cache à l'eau.
En classe, Toto demande au maître « Monsieur, est-ce que les baleines mangent des sardines ?» Bien sûr, Toto, mais comment font-elles alors pour ouvrir les boîtes ?
Merci de nous avoir écoutés, à la prochaine ! On remercie chaleureusement tous nos apprentis journalistes et nos professeurs.